Salomé Saquet, tu es chroniqueuse sur LCP et Arte et tu es surtout l'un des visages du média indépendant Blast qui a été fondé en 2021. Bonjour à toi.
Bonjour.
Sur Blast, pour te présenter, tu réalises des vidéos orientées économie ou politique et tu es également présente sur Arte et LCP de temps en temps pour réaliser des chroniques plutôt engagées, par exemple au sujet de la crise climatique ou encore de l'ultra fast fashion. Et aussi, j'ai lu dans un article du Monde que tu te définissais comme une journaliste engagée, mais pas militante. Et je voulais te demander comment cela se traduit dans ton approche du journalisme.
Alors, je ne suis pas militante parce que je ne m'inscris dans aucune structure, qu'elle soit politique, associative. Je n'appartiens à aucune ONG, je dois rendre de compte à absolument personne. Je ne défends aucune cause en particulier. Et j'ai vraiment cette indépendance-là qui, pour moi, est nécessaire, indispensable à tout journaliste. Donc, c'est pour ça que je ne me définis pas comme militante. Engagée, c'est souvent qu'on me qualifie d'engagée, en fait. Donc, j'ai fini par assumer ce qualificatif. Je pense que cet engagement se traduit principalement dans le choix de mes sujets, parce qu'effectivement, je vais privilégier des sujets que j'estime être d'intérêt public, qui vont souvent tourner autour des questions climatiques, des questions d'inégalité sociale, des questions également d'inégalité de genre, parce que c'est des sujets qui me semblent prioritaires, en fait, qui me touchent, et j'ai envie d'informer le grand public à ce sujet. Donc je vais essayer de les approcher d'une façon parfois un peu personnelle. Mais je garde toujours cette honnêteté journalistique, cette déontologie journalistique. En tout cas, j'essaie de l'appliquer au maximum. C'est-à-dire que même si je suis engagée, je ne vais jamais omettre, par exemple, des éléments qui n'iraient pas dans le sens de mon engagement.
C'est intéressant de l'entendre et aussi pour savoir d'où tu viens, on peut peut-être retracer ton parcours. Alors au début, tu ne te destinais pas forcément à devenir journaliste puisque tu as commencé par une classe préparatoire littéraire. Ensuite, tu t'es orientée en sciences politiques et en droit. Mais il y a eu un moment charnière dans ta vie, un Erasmus à Madrid. C'est là que tu découvres le journalisme dans un cours avec un professeur et également tu vas faire un stage à la Radio Nationale. En quoi cela constitue un tournant dans ton parcours ? Et est-ce que c'est à ce moment-là que le journalisme est devenu une évidence ?
Alors, le métier de journaliste m'a toujours fait rêver, depuis très jeune. Mais comme j'ai grandi dans un milieu où ce n'était pas forcément la voie à laquelle on me prédestinait, ou en tout cas une voie dans laquelle on m'a encouragée, j'ai toujours pensé que c'était impossible, que c'était assez inatteignable et que ce n'était pas vraiment pour les gens comme moi qui viennent du fin fond de l'Ardèche et que c'était un peu impossible. Donc effectivement, c'est ça qui a fait que je me suis dirigée vers une classe préparatoire littéraire. Et en fait, déjà, dès en post-prépa, en fait, j'écrivais déjà des articles dans des médias indépendants, j'ai déjà fait un stage de journalisme, mais ça me paraissait encore impossible. Et effectivement, quand je suis allée à Madrid, en plus de tous mes cours de droit et de sciences politiques, j'ai intégré une classe de journalisme en plus parce que c'était possible. Et effectivement, là, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que j'aime faire, c'est vraiment ma passion. Et pourtant, quand je suis retournée en France, j'avais encore cette espèce de barrière. Et c'est vraiment à la fin de toutes mes études de droit où je me suis dit, ah bah non, en fait, je veux vraiment faire journaliste, et j'ai intégré France 24. Et je dirais que c'est plutôt là que la décision de vraiment faire ma carrière s'est prise.
Tu es devenue journaliste et tu as débuté à France 24. Donc c'est le premier média pour lequel tu vas travailler. En parallèle, tu travailles également pour le média indépendant Le Vent se lève. Et à ce moment-là, c'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est comme ça que tu débutes ton parcours. Et avant de parler de ton travail à Blast, j'aimerais surtout qu'on parle de ta posture de journaliste, notamment dans 28 minutes. Il y a une séquence qui est devenue rapidement virale, dans laquelle tu dis « je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement ». On sent que tu incarnes ton sujet pour t'adresser à ta génération. Et justement, tu assumes ce parti pris. Je me demandais quel rôle le journalisme doit-il avoir face aux enjeux de ce monde ? Comment peut-il impacter ou être un outil indispensable ?
En fait, c'est marrant parce qu'on m'a beaucoup parlé de cette séquence comme d'une prise de position de ma part. Alors pour moi, je n'ai pas du tout pris position. J'ai simplement répété les inquiétudes de l'ensemble des scientifiques de ce monde. Et pour moi, c'est ne pas être inquiet. Surtout quand on a mon âge, quand on appartient à cette génération, c'est ça qui est fou. C'est ça qui serait complètement irrationnel, ce serait de dire aujourd'hui l'écologie n'est pas un enjeu prioritaire. En fait, c'est ça qui est absurde. Et donc je pense évidemment que l'écologie devrait être au cœur de toutes les préoccupations et ça devrait faire la une des JT tous les jours. Et on voit qu'on est possible, on est capable, pardon, de d'un coup faire intervenir un sujet extérieur à ce dont on a l'habitude. On le voit avec la guerre en Ukraine. Du jour au lendemain, c'est devenu une préoccupation majeure. Parce qu'on se sent menacé, et on a raison de se sentir menacé. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec le changement climatique, qui nous menace tout autant, et qui nous menace collectivement, mondialement. Et je pense qu'effectivement, j'espère que les journalistes, pas que de ma génération d'ailleurs, peut-être que ma génération y est peut-être plus sensible, mais c'est une erreur. Je pense que l'ensemble des générations devraient se sentir concernées, et se mettre à en parler voilà, tous les jours, tout le temps. Moi, c'est ce pourquoi je lutte, encore une fois. Et c'est pour ça que je considère que ce n'est pas de l'engagement, c'est du bon sens.
Mais c'était bien un message aux jeunes que tu voulais lancer, parce que souvent, les journalistes traitent leur sujet à la troisième personne. Là, tu t'inclus dans ton sujet pour dire aux jeunes, voilà, moi aussi, je me sens concernée. Est-ce que c'est peut-être aussi pour redonner confiance aux jeunes, dans le journalisme ?
Alors, j'avoue que je ne l'ai pas théorisé comme ça. Quand je l'ai dit, ça venait vraiment du cœur. Au même titre, encore une fois, que d'autres sujets que les journalistes ne vont pas hésiter à traiter à la première personne. Là, par exemple, sur la question de l'Ukraine, bon, bah, on est tellement directement menacés, on est français, on est dans le camp, entre guillemets, camp français, c'est évident, les journalistes ne vont pas commencer à défendre ce que disent les Russes. Bon, bah, là, on ne se pose pas la question de la première personne, de la troisième personne. On dit évidemment, c'est insupportable ce qui se passe en Ukraine, évidemment, c'est insupportable qu'on se fasse menacer avec l'arme nucléaire. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec l'écologie, sachant qu'encore une fois, ça nous menace tous, concrètement, là, maintenant. Donc pour moi, encore une fois, ce n'est pas du tout une prise de position. Moi, j'ai pas, sur le coup, je ne me suis pas dit « je vais donner espoir aux jeunes ». Force est de constater qu'effectivement, apparemment, ça a parlé à pas mal de jeunes, cette séquence notamment, et parfois une partie de ce que je peux faire dans mon travail.
Peut-être aussi parce que c'est inhabituel, qu'on n'a pas, que ça sort un peu des cadres quand on voit une séquence. C'est ça, on se sent concerné quand on est jeune, ça nous interpelle, je pense.
Mais c'est tout le problème, c'est que là, il y a quand même vachement plus de jeunes qui se sentent interpellés par cette séquence que de personnes plus âgées, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, nous, par exemple, une personne qui a 15 ans, elle sait que le changement climatique est quand même une menace. On a ça un petit peu en fond, on commence à en avoir conscience, on sait qu'on est concerné, on sait que le futur qui nous attend n'est pas forcément très lumineux, et on le voit d'ailleurs au travers d'études qui montrent qu'un jeune sur deux souffre d'éco-anxiété, donc on voit bien que c'est présent. Et moi, ce que je ne comprends pas, encore une fois, c'est que les autres générations ne se sentent pas aussi concernées, et ça m'interpelle. Mais pour moi, encore une fois, ça relève de l'évidence de dire, mais oui, on est tous menacés. Je vous dis demain qu'il va y avoir une forme de fin du monde, ou en tout cas de fin du monde tel qu'on le connaît. Est-ce que je garde ma posture journalistique qui est de dire avec un immense calme, voilà, quels sont les chiffres ? Non, il y a un moment, il faut dire, ce que je dis, bah, c'est une forme d'effondrement, c'est vraiment, c'est très factuel hein, aussi, dans mon approche. Mais oui, je le dis peut-être avec en tout cas une certaine émotion, encore une fois, pour moi, qu'on serait fou de ne pas ressentir face à la fin du monde telle qu'on le connaît.
Et tu l'as dit, un jeune de 15 ans sait que la crise climatique est un enjeu majeur, et peut-être que les autres générations n'en ont pas forcément conscience, ou en tout cas pas totalement conscience. Et j'avais une question là-dessus, dans l'imaginaire, justement, la crise écologique paraît comme un sujet de jeunes. Dans les médias, justement, comment on peut traiter ce sujet-là ? Parce qu'on voit qu'il est principalement traité par des journalistes jeunes. Et donc, je voulais te demander si tu avais le sentiment que les médias ont manqué cette évolution, ont manqué cette adaptation, justement, pour s'emparer de la crise écologique.
Alors, on en parle plus qu'avant. Heureusement, et en même temps, on n'a pas le choix, parce que les effets du changement climatique, on peut déjà les voir là, maintenant, en France, avec des inondations, avec une hausse des températures, donc on ne peut pas ne pas en parler. En revanche, je trouve qu'on continue à ne pas en parler assez, à parfois en faire une opinion. C'est ça qui est fou, c'est que alerter sur l'urgence écologique, ce n'est pas une opinion. C'est simplement se référer, encore une fois, au travail de milliers de scientifiques et se référer à un consensus scientifique. Donc ça, pour moi, c'est encore un problème. Parfois, effectivement, qu'on invite certains jeunes, ça m'est arrivé sur certains plateaux télé, où on vous présente comme un petit peu émotionnel, un petit peu radical, un petit peu alarmiste. Alors qu'en réalité, je ne fais que répéter les données qui sont présents dans les rapports du GIEC. Donc ça peut m'agacer. Et après, il y a aussi un problème, encore une fois, de hiérarchisation de l'information. On n'en parle pas assez. On ne le met pas en priorité tous les jours dans les JT. Ça, ça devrait être fait davantage. Et ensuite, il y a un problème de transversalité de l'écologie. Moi, je ne suis pas écologiste, je ne suis pas spécialiste de l'écologie, je n'ai jamais été. À Blast, il y a une journaliste qui s'appelle Paloma Moritz qui s'en occupe exclusivement, qui va décrypter les rapports du GIEC. En revanche, moi qui parle de politique, qui parle d'économie, je ne peux pas faire l'impasse sur l'écologie, parce que l'écologie, ça a des conséquences sur absolument tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre société. Et ça, pour moi, c'est encore ce qui manque, c'est de mettre de l'écologie un petit peu au cœur de toutes les disciplines, entre guillemets, journalistiques, au cœur de tous les sujets qu'on va pouvoir aborder. Et quand je parlais d'économie, mais évidemment qu'il faut parler de l'écologie. Et je pense que parfois, la difficulté journalistique, surtout dans une période d'élection présidentielle, c'est qu'il faut parler de ce qui n'existe pas, c'est-à-dire là, en l'occurrence, de programme pour l'écologie. Il y a des candidats qui n'ont pas de programme écologique. Et en fait, souvent, il va y avoir des journalistes qui vont tout simplement analyser leur programme, traduire leur programme de chaque candidat. Et pour moi, il faudrait faire des sujets entiers sur l'absence d'écologie, sur le vide. Et ça, effectivement, on n'en a pas vraiment l'habitude dans le journalisme, et pour moi, ça manque encore aujourd'hui.
Et tu parles un peu de la présidentielle, de la politique, car en fait, on ne peut pas nier le lien entre politique et médias, tout simplement parce qu'ils sont liés, ils sont là aussi pour servir leurs intérêts mutuels, parce qu'il y a des pressions selon le média pour lequel on travaille. Justement, comment ces médias-là peuvent-ils inclure le changement climatique ? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas possible pour tous les médias, et donc là, ça pose la question de la place des médias indépendants. Comment ils peuvent aussi prendre la relève ?
Alors, je pense qu'il y a évidemment l'émergence des médias indépendants est une très bonne chose. Je travaille moi-même pour un média dit indépendant. J'en suis ravie. Je pense que c'est salutaire pour le journalisme. Mais je pense que tout n'est absolument pas à jeter dans les médias dits plus traditionnels. Encore une fois, je mets un peu des guillemets parce que c'est un peu des lieux communs de qualifier les médias de cette façon. Je travaille, quand je fais mes chroniques, pour le service public, notamment LCP et RT. Et je suis convaincue que le service public peut vraiment changer la donne.
C'est aussi l'avenir, du coup, c'est ça que tu veux sous-entendre.
Pour moi, le service public pourrait faire partie de cet avenir si, encore une fois, on lui laisse les mains complètement libres et qu'on lui laisse l'indépendance. Et pour moi, c'est aussi le rôle de l'État de garantir l'indépendance des médias, qui est quand même un pilier majeur de la démocratie et qui est censé servir l'intérêt collectif. Aujourd'hui, parler d'écologie, j'estime que c'est servir l'intérêt collectif et donc que c'est le rôle des médias de le faire. Dans le public, pour moi, ça doit se faire, ça commence à se faire, encore une fois, pas assez rapidement à mon goût. Et ensuite, dans l'ensemble des médias, je pense qu'il y a aussi une responsabilité individuelle journalistique. Je sais que c'est pas facile pour les journalistes. Il y en a plein qui sont dans des conditions précaires, mais il y en a plein aussi qui sont pas dans des conditions précaires et qui pourraient aussi prendre position à un moment et dire « Mais si, en fait, aujourd'hui, en dépit des audiences, on va parler de ça » et se mobiliser collectivement et essayer de faire passer une envie collective journalistique de plus parler d'écologie. Et après, encore une fois, ça peut tenir à simplement une ou deux phrases rajoutées dans un sujet au JT de TF1 quand en fin décembre, on va parler de douceur hivernale et qu'on va faire un sujet sur des Parisiens en terrasse. On peut quand même faire le lien entre le fait qu'il fasse, je ne sais plus combien il faisait, 15-16 degrés en plein mois de décembre et le fait qu'on vive un réchauffement climatique dont nous sommes à l'origine. Et ça, est-ce que vraiment c'est impossible aujourd'hui de rajouter ces quelques phrases ? Non, je pense que là, encore une fois, il y a une responsabilité individuelle des journalistes. Et enfin, il y a aussi une responsabilité de l'audience. Comment réfléchissent les médias ? Encore une fois, il y a une question de rentabilité derrière, d'efficacité. Si l'écologie devient un sujet, si tous les sujets écologiques se mettent à faire de l'audience, des audiences massives, je pense que les médias suivront. Parce que, encore une fois, ils vont chercher aussi à accomplir cette forme de performance en termes d'audience. Et donc, ça tient aussi aux citoyens, s'ils le peuvent de leur côté, de répandre un petit peu cet intérêt pour l'écologie. Et ça pourrait être un cercle vertueux.
Et tu l'as parlé, tu travailles pour un média indépendant. Ce serait bien de parler de Blast, qui a été fondé en 2021 par le journaliste d'investigation Denis Robert. Il se présente comme étant le souffle de l'info. C'est Blast, le souffle de l'info. Et il entend être un espace d'information libre dans un monde inégal, dominé par les intérêts d'une minorité et dans lequel un désastre écologique s'annonce. Est-ce que vous voulez présenter Blast comme une échappatoire, finalement, dans ce monde, dans ce contexte aussi grandissant de défiance envers les médias ?
Blast, c'est vraiment l'histoire de plusieurs journalistes qui se sont rassemblés pour essayer de créer leur média idéal. Et donc, moi, j'ai juste essayé de me dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais voir ? J'ai vraiment essayé de créer des émissions que j'aimerais consommer. Et en fait, on essaie vraiment de faire le journalisme de la manière la plus libre possible, de la manière la plus didactique possible. Et encore une fois, on essaie de produire juste les émissions qui, pour nous, manquent. Après, on espère ne pas être la seule échappatoire. On l'espère vraiment, très sincèrement.
Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce que tu as le sentiment de manquer dans les autres médias et qu'on peut retrouver dans Blast ?
Bah, déjà, on a une vraie indépendance financière. Ensuite, il y a une façon de hiérarchiser l'information qui n'est pas la même. À Blast, par exemple, l'écologie a une place absolument centrale. Le traitement des inégalités a une place absolument centrale. Le traitement de, par exemple, l'islam n'a pas une place centrale. Parce qu'on estime qu'il est déjà trop traité dans certains médias. À Blast, on va également donner la parole à des personnes qui l'ont peu dans certains médias. Donc ça peut être certaines professions qui sont peu représentées, ça peut être certaines personnes qui sont dans une situation difficile dont on va peu parler. Et ensuite, j'essaie vraiment d'expliquer avec un point de vue différent, d'aborder avec un point de vue différent des thématiques qui sont très complexes, comme par exemple la création monétaire. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire là dans mes dernières émissions sur l'euro, pour apporter un point de vue un petit peu, encore une fois, différent sur, par exemple, l'Union européenne. Ça, par exemple, ça peut faire partie des émissions qu'on va trouver sur Blast.
Et quand tu dis « c'est pour ça que je suis journaliste, parce que c'est un métier qui peut vraiment changer les choses », on entend bien qu'aujourd'hui, même le terme « journaliste », on ne l'emploie plus, on emploie des termes comme « influenceur », mais il faut que le journaliste reste le journalisme, parce que finalement, c'est l'avenir, le journalisme a encore un avenir.
Bien sûr. Pour moi, le journalisme a encore un avenir. J'essaie au maximum de faire honneur à ma profession. Je suis journaliste et pas influenceuse parce que j'utilise des méthodes journalistiques. Je respecte, encore une fois, en tout cas tout ce que je sais, tout ce que je peux faire, la charte de Munich, qui est la charte des journalistes, la déontologie journalistique. J'ai une méthode qui consiste à recouper les faits, vérifier les faits, avoir des sources, vulgariser, essayer de mettre ça en forme de manière, encore une fois, à vulgariser, à rendre ça intelligible, compréhensible par la population et donc à diffuser cette information. Et ça, pour moi, encore une fois, ça correspond tout simplement à la définition du journalisme. Et le journalisme, c'est aussi un contre-pouvoir. Pour moi, le journalisme, c'est aussi le quatrième pouvoir. Et c'est, il faut bien qu'on comprenne que le jour, pour moi, où on n'a plus du tout de journalistes, on n'a plus vraiment de démocratie. Et c'est pour ça que je ne peux pas me résoudre une seconde à me dire qu'on va rayer ce terme du dictionnaire, parce que l'histoire aussi du journalisme montre son importance.
Merci beaucoup pour cet échange instructif. C'était très intéressant d'échanger avec toi. Et tu es ici, on se rencontre dans le cadre du festival Nos Futurs.
Bah, carrément, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour m'interviewer. J'étais super contente de pouvoir échanger avec toi.
Merci beaucoup.